RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
Et Thierry Bourguignon et Luc Leblanc sont là comme tous les soirs pendant les trois semaines du Tour de France. Rebonsoir messieurs.
Oh là, le micro n'était pas.
Il est là Thierry.
Devant la bouche. Bonsoir.
Bonsoir Thierry. Lucho, tu es là aussi?
Non.
Ah, Lucho, il n'est pas là, mais il parle. C'est magnifique.
C'est.
Alors. Bon, une deuxième étape, messieurs, vous nous aviez prévenu, ce serait agité, ça l'a été, pour certains plus que pour d'autres. On va juste faire un petit point rapide, hein, rapidement sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Déjà la victoire d'André Greipel au sprint, en tout cas au sprint des 24 rescapés des bordures, on va dire un peloton restreint. Greipel qui s'est imposé avec la prise de maillot jaune de Fabian Cancellara grâce à sa troisième place et ses 4 secondes de bonification. Parce que vous l'avez compris, le maillot jaune, Juan Dennis, n'était pas dans le coup, avait pris une bordure tout comme certains favoris. Dans ces 24 rescapés, il y avait quand même du beau monde avec Chris Froome et Alberto Contador, mais qui ont creusé un écart sur les autres favoris, notamment Nibali, Pinot, Quintana ou les Français Bardet et Perrault qui ont concédé 1 minute et 27 secondes pris dans plusieurs bordures. Ils n'ont pas tous été pris dans la même bordure, mais à l'arrivée, ils ont tous pris le même retard, 1 minute et 27 secondes. Messieurs, Thierry, Luc, ça veut dire que ben tout est à refaire, notamment pour Thibaut Pinot, qui hier était un grand gagnant et qui aujourd'hui est un grand perdant.
Et oui, les journées passent et ne se ressemblent pas, malheureusement pour lui. Hein.
Voilà.
Parce que hier, on s'était emballé parce qu'il avait, fait un excellent, on va dire, un excellent pour lui, un excellent chrono. Et puis aujourd'hui, ben, une erreur, une déconcentration. Déconcentration, je pense que, de toute façon, on l'avait dit, c'est déjà les étapes. La première semaine, c'est très nerveux parce que tout le monde est sur le qui-vive, a peur des chutes, a peur de, du moins veut gagner aussi, a peur des chutes, donc ça frotte énormément. Et là, aujourd'hui, on savait que cette étape allait être dantesque si un coup de vent venait à se lever. C'est ce qu'on a vu.
Et la pluie aussi,
alors,
en plus.
Hein, une fois c'est parti, c'est revenu. Ça a pas suffi pour alerter tout le monde, parce qu'a priori, ben, quand c'est parti, la deuxième fois, c'est allé au bout. Et puis, une 30, du moins une 28, c'est pareil, ça fait mal quand même. Hein.
Le hashtag RMC Live est ouvert pour poser vos questions à Thierry Bourguignon et Luc Leblanc, le 32-16 avec Henri Pierre. Bonsoir Henri Pierre.
Oui, bonsoir, bonsoir Lucho, bonsoir.
Bonsoir Henri Pierre.
L'équipe.
Bonsoir. Tu as une question, Henri Pierre. On t'écoute.
Alors moi, la question que j'aimerais, alors, ou à Thierry Bourgui, ou alors à Lucho, mais est-ce que aujourd'hui, comme Bernardino le disait ou quoi, est-ce qu'on n'a pas vu Contador, qui est vraiment, lui, le patron du Tour, là. Moi, j'ai l'impression que le charisme de Contador, aujourd'hui, il a été impressionnant. J'ai l'impression que c'est lui qui a dirigé la course. À un moment donné, on l'a vu, ça a gueulé, c'est lui qui a créé des bordures. Après, quand ils se sont retrouvés devant, c'est lui qui a fait mettre presque en marche les BMC, en leur disant, allez, il faut y aller, il faut... Est-ce que vous ne croyez pas que Contador, par rapport même à Froome, qui était dans l'échappée, aujourd'hui, a montré quand même que ça restait le grand patron du Tour de France, là?
Oh, le grand patron, il faut
si on regarde le palmarès, déjà, oui, il est au-dessus de Froome. Hein. Mais et en plus, bon, je te laisserai parler juste
oui,
après.
Vas-y, je t'en prie.
Mais franchement, Contador, ce que j'aime en lui, c'est qu'il n'a pas peur de prendre des initiatives. Et on l'a vu aujourd'hui. Hein, la première bordure, c'est à son initiative et à l'initiative de son équipe. Et la deuxième, eh ben, ils ont participé au coup de bordure, pareil. Et il prend ses responsabilités. Et c'est ce qui manque un petit peu chez certains leaders sur le Tour de France.
Ben, voilà, oui. Moi, ce qui m'a semblé, c'était que Valverde, que Quintana ou quoi, en aurait dit des petits garçons, quoi, en fait. Il les a remis au rang de petits garçons, quoi. On les a vus, se sont fait.
Non, mais il était un peu vexé de son chrono, peut-être d'hier, Contador, et s'est dit, oula, je vais rétablir la situation.
Il a de l'orgueil.
Il a de l'orgueil. C'est l'orgueil d'un grand champion, ça n'y a rien à dire.
C'est clair.
Et le fait d'avoir demandé à son équipe de faire une bordure, peut-être plus tôt que prévu. Hein, parce qu'ils ont surpris quand même le tout le monde en faisant cette bordure, et voilà, et ça a étonné quand même pas mal de monde. Et puis après, c'est vrai qu'il y a le fait de ce fameux rond-point où certains coureurs ont pris à droite et d'autres à gauche, et là ils se sont fait piéger.
Et juste pour rejoindre ce que dit Henri Pierre, Luc et Thierry, on a l'impression aussi que Contador, c'est, je dirais, quelqu'un d'efficace. C'est-à-dire que dès qu'il y a une occasion et qu'il est en forme, il la saisit.
Ah, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est un gars qui est opportuniste, qui a pas peur de déclencher aussi, parce que comme on dit, la chance, il faut la provoquer. Et lui, il la provoque assez souvent. On l'a vu juste avant le tour, il y avait la route du sud. La route du sud, il avait pas pu larguer dans le col Quintana. Et ben, il a attaqué de nouveau en descente pour aller jusqu'à la victoire. Et ça c'est vraiment, on aime ou on n'aime pas Contador, mais moi ce que j'aime en lui, c'est son initiative. C'est un gars qui ne subit pas, mais qui provoque tout ce qu'il peut faire.
De toute façon, pour remporter le tour, il faut savoir provoquer à n'importe quel moment.
Et surtout cette année, voilà, avec tous les leaders qu'il y a.
Exactement. Donc c'est du bonus pour Contador aujourd'hui.
Merci Henri Pierre.
Merci à vous, bonne soirée.
À bientôt. Le 32-16 ou le hashtag RMC Live pour poser vos questions à Thierry Bourguignon et à Luc Leblanc. Et au 32-16, Jean-Marie est avec nous. Bonsoir Jean-Marie.
Bonsoir Jean-Marie.
Je voudrais saluer fraternellement Monsieur Guimard, dont j'ai été un supporter pendant ma jeunesse. Et je conseille à tous les auditeurs de lire son livre, puisqu'on est dans le Tour de France, qu'il a écrit sur le Tour de France... qui est un merveilleux livre et quelqu'un de très visionnaire. Voilà.
On lui dira Jean-Marie, ça lui fera plaisir. Voilà. Question
Cyril,
à Luc et
Cyril, je vais le chercher.
La question, c'est par rapport deux équipes que je suis plus particulièrement, l'équipe Astana de Nibali et celle de Thibaut Pinot, la Française des Jeux. Par rapport aux images de la télé aujourd'hui, je les ai trouvés étrangement absents quand même dans la poursuite qu'ils auraient dû faire. J'ai vu même par moments Nibali et Thibaut essayer de rameuter leurs troupes et il n'y avait pas grand monde. Alors je voudrais savoir ce qu'en pensent Thierry et Luc.
Thierry,
ciao.
Vas-y.
Vas-y. Prends parole un peu.
Vous parliez de qui?
Oh non.
Je parlais des équipiers de Nibali.
Nibali et la Française.
Et la façon dont juste parce qu'à un moment les équipiers de Nibali étaient pas dans la première bordure, ils étaient dans la deuxième, c'était un petit
fallait. Alors compliqué. Depuis le départ, on nous vend ces deux équipes, notamment la Astana, comme très très fortes. Aujourd'hui, je les ai trouvées assez absentes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, ils ont été absents, ils se sont fait piéger longtemps. Quoi, absents oui et non. Après ils se sont fait piéger sur un rond-point. Après il fallait réagir de suite.
Et oui.
Sachant qu'il y avait les 10-15 mètres, on sait très bien que quand on perd 10-15 mètres avec du vent, si on en prend plus, c'est toujours difficile de pouvoir s'organiser et après c'est trop tard. Et là ça s'est passé comme ça aujourd'hui. Donc ils auraient dû réagir de suite et les équipiers étaient peut-être un petit peu trop dispersés, les équipiers de Nibali et de Quintana, pour pouvoir rattraper le problème de suite. Donc et puis ça a fait ce que ça a fait. Hein,
je trouve quand même c'est navrant de voir des équipes qui sont au départ du tour pour gagner le tour.
Oui.
Et qui sont éparpillés dans le peloton plutôt qu'être autour de son leader et puis de le protéger et de le remettre à l'avant.
Ouais, tout à fait. Moi j'ai trouvé.
Donc, c'est vrai, Lucho, on a toujours appris ça. Quand t'es équipier, tu remontes ton leader et puis on doit pas se déconcentrer.
Se déconcentrer.
Oui. La moindre déconcentration, ça passe à travers. Hein. Ça dure pas longtemps. Hein. Quelques secondes à sortie d'un virage, changement de trajectoire et de vent, changement de vent et paf, ça casse. Hein. Et après, comme tu dis, 15 mètres, ça prend des proportions, ça fait une 25 à la fin, une 28 même à la fin, et ça fait beaucoup, oui. Et en plus, c'est vrai que on les sentait pas complètement dans le boulot, comme on dit.
Tout
hein.
À fait.
J'avais l'impression qu'il y avait certains qui étaient sur la réserve. Alors ça,
ils sont pas roulés en tout cas.
À la Française des Jeux, ils sont peut-être pas super rouleurs, mais chez Astana, ils ont ce qu'il faut.
Ouais, mais tous. Astana, c'était la grosse équipe. Hein. Pour moi, je dis, c'est encore la grosse équipe.
Et puis, on peut pas parler de fatigue quand même aujourd'hui encore. Hein.
Ben non, mais
non,
psychologiquement,
le deuxième
ce soir,
jour.
Ils sont très très fatigués.
Ouais, c'est un coup de bambou quand même.
Bon, d'accord.
Merci Jean-Marie.
Merci.
De nous avoir appelé au 32-16. À très vite. Oui. Thierry Bourguignon, Luc Leblanc, qui vont rester avec nous. Évidemment, posez vos questions au 32-16 ou sur le hashtag RMC Live, le Tour de France. Et puis le foot, tout à l'heure, dans l'after, évidemment, à partir de 21h, avec une grosse page sur la Copa América et la victoire du Chili hier face à l'Argentine. On en parle d'ailleurs à 20h30 avec Omar Da Fonseca. Et puis dans l'after, focus sur le mercato de l'OM en ce moment. Faut-il s'attendre à un début de saison galère? Appelez-nous 32-16 ou le hashtag RMC Live.
RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
20h14 sur RMC, votre rendez-vous tous les jours pendant les 3 semaines du Tour entre 20h et 20h30. Posez vos questions. Thierry Bourguignon et Luc Leblanc sont là au 32-16 ou alors sur le hashtag RMC Live. N'hésitez pas. Sur le hashtag d'ailleurs, on a un petit mot de Assis Lucien qui nous dit arrêtez de faire de l'anti-Pino. Je sais pas si on a vraiment fait de l'anti-Pino, ouais, Lucho et Bourgui.
Ah non, pas du tout.
Non, on pas
au contraire, on n'a pas arrêté de l'encenser hier.
Quand les coureurs se loupent, hein. Ça arrive à tout le monde, hein, ça aussi. Hein.
Exactement.
Mais malheureusement, c'est la course. Il faut être présent du début à la fin.
Et aujourd'hui,
il va s'attraper.
Ouais, y a encore du temps. On a Gérard au 32-16. Bonsoir Gérard.
Oui, bonsoir à toute l'équipe.
La pêche.
Oui, dites-moi, je voudrais demander à aussi bien Luc que Thierry, je suis vraiment déçu, parce que de la façon qu'on présente là, où il se passe quelque chose que l'on ne comprend pas, mais c'est pas possible que les équipes de poursuivants avec des gars comme des prétendants au podium, ne puissent pas combler le trou, c'est impensable.
Ah, ils auraient dû le boucher depuis le départ, hein, le trou. Hein.
Non, mais c'est...
Avant qu'ils s'agrandissent. Hein.
Oui, d'accord, non, mais ça fait rien quand même. C'est pas possible.
Non, mais alors,
ou alors, ils n'ont pas roulé.
Oui, mais attention, parce qu'il y a un moment, ils sont revenus à 50 secondes.
Oui.
Et là-dessus, il y a eu la crevaison
de Nibali.
Et ce qui a désorganisé un petit peu le groupe, puisque les gars de Nibali n'ont plus roulé.
Oui.
Et à partir de là, ben, c'est reparti un petit peu. Et ça roule très fort devant, très fort derrière. Et vous avez vu devant, hein. Devant, il y avait des Martin. Martin, il s'en est donné à cœur joie. Hein. Il a fait un deuxième chrono, plus que ça, même, hein.
Mais on le sait.
Quand on connaît Martin, on connaît, Cancellara, c'est les gros rouleurs, c'est les gars. Devant, ça n'amusait pas la galerie, derrière non plus. Je pense que c'est au tout début qu'il n'y a pas eu. Ils ont mis trop de temps avant de s'organiser et gicler pour aller chercher le premier groupe.
Ou alors peut-être la chute qui a complètement désorganisé, parce qu'autrement.
Ça aussi, oui.
Et je vais vous dire, nous dans des Paris-Nice ou dans les Tours du Sud-Est ou aux Dauphinés libérés, avec Jacques et Gradzig, quand il y avait un truc comme ça, ça arrivait pratiquement pas. Maintenant, les problèmes ont peut-être changé, mais disons, je vous ai appelé pour vous évoquer ma déception, parce que gagner des tours comme ça, si on n'est pas capable à 50 bornes de combler au moins 20 ou 30 secondes.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais là, il y avait plus quand même.
C'était une minute tout de suite. Hein.
Ouais. Il y avait pratiquement une minute.
Une minute, ouais.
Et comme on vous l'a dit, c'est au tout début qu'ils ont ils ont manqué d'organisation. Il fallait se regrouper. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils font. Je le disais tout à l'heure. Je comprends pas pourquoi les équipes sont espacées dans un peloton comme ça. Surtout une journée comme ça. Il fallait être tous autour de son leader et puis pour pouvoir réagir. Qu'il y ait une crevaison ou une chute ou une cassure, voilà.
Voilà, tu pèses donc un peu comme moi.
Un petit peu, oui.
Grosso modo, voilà.
Je trouve que les équipes qui se sont fait piéger n'ont pas réagi rapidement.
Voilà.
Après, le mal est fait. Hein.
Voilà, en 30 secondes, après je vous laisse. Des fois, je me dis, putain, les anciens footballeurs et les anciens cyclistes, qui sont des consultants, j'ai l'impression que vous n'allez pas au bout des choses ou que vous expliquez pas aux auditeurs exactement les...
Allez au bout des choses, Thierry et Lucho, bon sang.
On
a été au bout des choses.
On
hein.
fait que ça.
Bah, ouais, alors, on a mis pas tout
même pratiquement un carton, du moins. On parlait de fautes graves. de la part de certains, parce que au départ du tour, quand on annonce qu'on est là pour gagner le tour, et une journée comme ça, on n'a pas le droit de se faire piéger comme ça.
Voilà.
On n'a pas le droit.
Alors, de toute manière, je vous remercie de vous avoir pris mon appel, et je profite de dire que aussi bien Thierry que Luc, je les connais, parce qu'avec Luc, j'ai fait son jubilé à Rognes, Thierry, je l'ai rencontré au Vélo Club Saint-Antoine à la Gavotte, etc., etc., voilà.
Ah, envoie un spécialiste, hein, quand même.
Ah ben non, je suis un ancien coureur cycliste. Moi, ben oui, j'ai couru à l'équipe La Perle, à Gérard Royal, à Mercier. J'ai fait le Dauphiné libéré en 54 et 55 avec Anne Cotille et tout le monde. Là, c'est parti de l'équipe des anciens. Mais des très anciens, quoi.
Mais non, les anciens, mais ça, voilà. Ça reste un coursier.
Comme nous, les anciens.
Ça reste un coursier.
Voilà, anciens, donc je vous salue et je vous remercie encore. Hein.
Gérard, c'est quoi votre nom de famille, ancien coureur?
Fliffel.
D'accord, on va... Bah écoutez, appelez-nous quand vous voulez, hein, parce que ça nous fait un autre membre dans la Dream Team, faut pas hésiter, hein.
Ah ben, si je peux me permettre.
Mais comment on va pas au bout des choses, nous.
Ben voilà. Non, mais puisque vous.
Grande gueule aussi.
Puisque vous me le dites, je n'hésiterai pas.
Ah ben voilà.
N'hésitez
super.
Pas.
Parce que des fois, je discute avec mon frère qui a été cycliste professionnel aussi, mon père aussi qui a eu une brillante carrière. Et donc, c'est l'équipe de Marseillais qui a flambé dans le fameux Paris-Roubaix où Joseph Curtel a été discuté avec le champion du monde belge, là.
Oh. Et vous imaginez, et une famille de cyclistes, c'est déjà dur, mais de cyclistes marseillais, les gars.
Eh oui. Ah.
Et si on lui donne la parole,
je vais vous dire,
on est obligé de le couper.
Le dimanche, tout le monde sort ensemble, là. Louis Rostolan, Francis Anastasi, Genovese. Genovese, Lerda, hop, hop. On est tous là.
Mais bon. il y a le petit jeune Rostolan, là, qui n'est pas la pomme Marseille.
Oui, la pomme.
Oui, c'est ça, la pomme Marseille.
Il mériterait de passer au-dessus.
Mais il marche pas mal.
Voilà. Oui, ça va il mériterait d'être dans une plus grosse équipe.
Voilà, et l'équipe de la pomme, il y a parmi ceux qui s'en occupent en préparation, la Duverger, Francis
d'accord,
Duverger.
D'accord.
Merci Gérard.
Voilà. Merci Gérard.
Allez.
Et puis c'est toi qui nous a fait, qui a fait l'histoire du vélo, et grâce à toi, on a continué ton histoire.
Eh ben oui. Et ça discute dur en ce moment. Hein.
Ah ben voilà, ben continue à discuter et puis appelle-nous.
Allez, ben je n'y manquerai pas et je vous en remercie infiniment.
Il n'y a pas
allez,
de souci.
Bonne soirée,
on
Gérard.
Ton accent parce qu'ici, il ne fait pas soleil, il flotte, il y a du vent, et voilà, d'entendre mais... l'accent du sud, ça
mais
fait
on est bien.
Bien
dans le
alors
sud,
ici,
on est bien.
Ici, il fait très chaud. Ah ouais, là, sur mon balcon, j'ai
33.
Oh,
ça suffit.
Mais je vais boire un bon pastis.
Gardez de la salive pour la prochaine fois, Gérard.
Je vais boire un bon pastis. Allez, salut les amis.
Salut. Eh ben voilà.
Et Lucho, ne relance pas.
Oh là là, punaise.
Oui. Ça, c'est le sud.
Et voilà, ben, et on a encore quelqu'un du sud qui nous appelle. C'est Jean. Bonsoir, Jean.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous.
Bonsoir Jean.
Moi, je voudrais pas parler des premiers. Je voudrais parler un petit peu de Thomas Vauclair. Thomas Vauclair, c'était le chouchou un petit peu des Français à une certaine époque. Et maintenant, malheureusement, j'ai l'impression que il fait l'année de trop. C'est pas votre avis?
L'année de trop.
Ah, je vais donner son classement de l'étape, c'est pas très flatteur, mais bon, il vise pas le général. Avant-dernier. Il a été dans le dernier groupe à 11.06 du premier peloton.
Non, ce qui est navrant, c'est que franchement, ce qu'il a connu hier, parce qu'il a été hué pour une sombre affaire, qui franchement...
Avec Ogerland sur
peu,
la chute,
oui,
et quand il a
un
pris le maillot
stupide,
jaune.
Parce que lui, il est pour rien, comme il dit. S'il avait pu les garder tous les deux dans l'échappée... pour aller jusqu'au bout, il l'aurait fait. C'est un concours de circonstances, c'est un fait de course qui a fait que il y a deux coureurs qui se sont allés s'accrocher sur les fils barbelés, et malheureusement. Et ça fait quoi? Ça fait 2 ans, ça, non?
Ça fait 2 ans, oui. Ouais, deux, trois ans,
les Hollandais, ils ont de la mémoire. Hein, s'ils sont pas rancuniers, ceux-là. Et ils l'ont hué tout le chrono.
Ah mais ils l'ont pourri.
Alors franchement, bon, déjà, lui a l'habitude qu'on l'applaudisse, parce que c'est, vous l'avez dit, c'est le Français bien aimé. Et là, ça a dû lui mettre un petit coup au moral. Et puis, franchement, c'est vrai qu'on sent pas son équipe, mais c'est même pas que lui. C'est son équipe, on la sent pas dans les meilleures conditions pour le tour.
Mais il a plus de 35 ans, non?
Oui, non, il est dans ces eaux-là, 35 ans.
Ouais. En tout cas, moi, j'ai l'impression, ça fait déjà quelques temps d'ailleurs, qu'il fait la saison de trop, là. Et je.
Disons que pas peut-être qu'il... pas la saison de trop, mais peut-être le tour de trop.
Il a 36 ans, oui, exactement, messieurs.
Le tour de trop, à mon avis, il n'ira pas au bout. Et c'est bien dommage. C'est un garçon tellement sympa, tellement sympathique, que moi j'adorais, que je trouvais très très bon et très
sympa. On le reverra dans les prochaines semaines, quand il y aura un petit peu des écarts au général, hein.
Ouais. Bien sûr, c'est un coup de mou qu'il a eu aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est
il attend les Pyrénées pour partir de loin et faire essayer de faire quelque chose, comme tous les ans.
Merci Jean.
Eh bien écoutez, merci à vous, merci pour votre émission. Je la suivais là et elle est très très intéressante.
On est bien,
merci beaucoup.
On est intéressant, c'est vrai.
À très vite Jean. Thierry Loutour, on a une petite question sur le hashtag RMC Live de Mbarek qui nous dit: l'arrivée était en petit comité quand je vois le sprint de Cavendish, du Cav, il nous dit, dis que le grand Cavendish n'est plus là, qu'en pensez-vous?
Ça, je l'avais dit, hein. Cavendish, ça fait 2 ans qu'il n'est que l'ombre de lui-même. Et en plus, aujourd'hui,
c'est vrai que,
grâce à lui,
il est un coup de moins bien,
grâce à lui, Martin, qui a roulé toute l'étape pour lui, a loupé le maillot jaune. Et franchement, super cadeau.
On va juste expliquer, parce que Cavendish a pas fini le sprint et a laissé passer. Enfin, laissé passer.
Oui.
Quand Cellara l'a doublé, il a pris les bonifs.
Si, parce qu'il s'est relevé. Oui. Parce que c'est un caractère très trempé. Quand monsieur ne gagne pas, ben, il en a rien à foutre de faire 2, 3, 4. Du coup, il a fait 4 et puis, il y en a un qui le remercie tout lui. Ouais. Ce soir, qu'il le remercie parce qu'il a la tunique jaune, mais c'est pas celui qui devait l'avoir.
Bon, merci beaucoup Thierry Lucho. Oui. On se retrouve demain, bien sûr, tous les jours, 20h, 20h30, hein, pour revenir sur les étapes du jour avec le hashtag RMC Live et le 32-16, et puis l'intégral tour, évidemment, à partir de 15h demain, tous les jours, 15h, 21h, l'intégral tour. Salut les gars.
Salut, à bientôt.
Salut.
Merci. Enfin,
bonne
demain. À demain.
Ça marche. Va te reposer un petit peu.
Oui. T'as pris un coup de bambou toi aussi. Hein.
J'ai pris un coup de bordure.
Allez, avant de parler foot, messieurs, à demain, 20h26 sur RMC.
RMC Intégral Tour. Martial Fernandez.
20h28 sur RMC, l'intégral tour jusqu'à 21h, c'est juste avant l'after tous les soirs, 21h, 23h, avec au programme ce soir une grosse page Copa América et puis un focus sur le mercato marseillais. Faut-il s'attendre à un début de saison compliqué pour l'OM cette année, vu les recrues ou le peu de recrues pour l'instant? Appelez-nous au 32-16 ou alors le hashtag RMC Live. On commence une page foot tout de suite avec le Paris Saint-Germain, pour qui c'est l'heure de la rentrée. Demain, reprise de l'entraînement du côté du camp des loges. Enfin, pas du côté du camp des loges d'ailleurs. Benjamin Glaise est avec nous. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir Martial. Non, alors, ce sera pas le camp des loges.
Mais ce sera où alors?
Est-ce que le camp des loges est en travaux? Donc ça sera à Marcoussis, justement le temple du rugby. D'ailleurs, les Parisiens vont retrouver là-bas les joueurs du 15.
Ah ben oui, ils arrivent demain aussi.
Exactement, qui arrivent demain. Donc ils vont se partager les locaux. Côté parisien, seule une poignée de joueurs seront présents avec Laurent Blanc pour la reprise qui est prévue demain à partir de 11h, parmi eux pas d'internationaux, donc avant tout des jeunes qui vont faire leur apparition. On parle notamment d'Hudson Edouard, qui est la star des moins de 17 ans de l'équipe de France, qui avait remporté l'Euro cette saison, meilleur buteur de cet Euro des moins de 17 ans. Il sera là, a priori il sera en Autriche, ça sera le premier stage, donc sans internationaux. Départ c'est mercredi prochain, départ donc pour l'Autriche, un stage de 2 semaines avec un premier match amical assez facile, hein, contre un club de 3e division autrichienne pour se mettre un peu en jambes. Les internationaux, eux, vont faire leur retour progressivement à partir de la mi-juillet.
Il y en a qui jouaient déjà hier la finale de la Copa América.
Alors eux, on ne sait même pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Ils vont revenir beaucoup plus tard. Ce qui est sûr, c'est que le 15 juillet, pour la tournée américaine, on verra les internationaux qui ont disputé des matchs au début du mois de juin. Donc Grégory Van Der Ville, Salvatore Sirigu, le gardien Marco Verratti, Zlatan Ibrahimovic ou encore Blaise Matuidi. Donc tout au programme de cette tournée américaine. Donc un donc un tournoi amical relevé au New Jersey. Entre le 18 et le 29 juillet, le PSG affrontera le Benfica, la Fiorentina, Chelsea, Manchester United. Et Paris terminera sa préparation avec le Trophée des Champions. Premier match officiel pour les hommes de Laurent Blanc. Ce sera le samedi 1er août à Montréal contre l'Olympique Lyonnais.
Alors, côté transfert à Paris, ça commence à bouger, mais à bouger très timidement, Benjamin.
Très timidement, on parle de Kevin Trapp, hein, le gardien allemand de Francfort. 24 ans, ce sera sans aucun doute la première recrue parisienne. Il devrait signer dès demain un contrat de 5 ans contre environ 8 millions d'euros. Johan Cabaye, lui qui souffrait de la concurrence dans son secteur de jeu, devrait quant à lui quitter le club cet été. Selon The Guardian, Crystal Palace tiendrait la corde avec une offre de 14 millions d'euros. Cabaye y retrouverait Alan Pardew, son ancien entraîneur de Newcastle, qu'il connaît bien et qu'il apprécie. Ce qui est très important, c'est la levée des sanctions du fair play financier la semaine dernière qui va permettre au PSG de monter en puissance sur ce mercato.
Mais on attend toujours.
En tout cas, il y a peut-être un début de frémissement avec, en début de semaine prochaine, une réunion très importante qui aura lieu entre Laurent Blanc, Olivier Létan, le directeur sportif adjoint du club, et le président Nasser Al-Khelaifi. Pour le moment, on parle d'une enveloppe de 100 à 120 millions d'euros pour ces transferts. Et c'est dans cette réunion qu'on va commencer à parler des gros transferts qui pourraient avoir lieu pour le PSG. En tout cas, l'international argentin Angel Di Maria serait la priorité du club, encore une fois, cet été. Le milieu mancunien serait intéressé pour venir au PSG. Et puis, le joueur du FC Séville, Benoît Tremolinas, c'est aussi une piste qui étudie très sérieusement le club de la capitale.
Très bien, Benjamin, ça c'est pour le Paris Saint-Germain. Mais il y a d'autres clubs en Ligue 1 qui sont évidemment sous le feu de l'actualité des transferts.
RMC, le Mercato Show. Le Mercato Show.
Et ça bouge du côté de Lille, Benjamin.
Avec l'arrivée probable de Mounir Obadi, le joueur encore lié pour une saison à Monaco se rapproche de plus en plus du LOSC. Il avait été prêté au Hellas Vérone la saison passée. Le milieu marocain devrait signer à Lille dès la semaine prochaine. Pour le moment, on ne sait pas encore quelles seront les conditions du contrat. En revanche, mauvaise nouvelle pour le club d'Hervé Renard. Le transfert du défenseur ivoirien Wilfred Canon, 21 ans, pourrait finalement être annulé. La visite médicale a révélé des soucis au genou. Une contre-expertise aura lieu la semaine prochaine pour savoir de combien de temps il aura besoin finalement pour sa rééducation. Et si la durée est trop longue, il pourrait y avoir une annulation du transfert du vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations.
Et puis un mercato assez calme ce dimanche dans les autres clubs français.
Oui, peu de mouvements à vous signaler. Tout d'abord, Nantes, un accord aurait été trouvé enfin avec le Genoa pour Issa Sissoko. On parle d'un contrat de 3 ans pour 500 000 euros. Le latéral droit devrait d'ailleurs se rendre en Italie la semaine prochaine pour signer son contrat. On parle aussi de Diego Rolan dans les transferts. Le Bordelais pressenti pour rejoindre le FC Séville se rapproche finalement de Newcastle. Les Magpies auraient fait une offre de 15 millions d'euros et les Girondins chercheront à remplacer Roland par Jordan Ayew. Et puis le milieu offensif Carlos Eduardo, prêté la saison dernière, on le souvient, par le FC Porto à Nice, devrait prendre la direction de l'Arabie Saoudite. Il devrait rejoindre le club Al Hilal pour 3 ans.
Et puis un ancien joueur de Montpellier qui pourrait avoir une seconde chance.
Ouais, il s'agit d'Emir Spahic, on le connaît bien, il a joué 2 ans.
Il y a des attaquants qui le connaissent bien.
Avec Montpellier, exactement. Défenseur très rugueux, le Bosnien avait été viré en avril dernier du Bayer Leverkusen qu'il avait rejoint en 2013. On se souvient, l'ancien défenseur de Montpellier de 34 ans avait asséné un coup de tête à un stadier. Il n'avait pas supporté la défaite de son club en coupe face au Bayern Munich. C'est un sanguin, ça c'est sûr. Il était sans club depuis, il a trouvé finalement preneur. Hambourg a officialisé aujourd'hui sa venue pour un an. Le club allemand avait sauvé sa tête en Bundesliga la saison dernière à l'issue des barrages. Et puis ça bouge aussi du côté de Manchester City. Selon le Daily Star, les Citizens seraient prêts à mettre 63 millions d'euros pour l'ailier de Liverpool, Raheem Sterling. Le joueur de 20 ans avait déjà annoncé son refus de prolonger chez les Reds. Et puis une dernière info, on les connaît bien tous les deux. Le mancunien Nani arrive ce soir en Turquie pour signer avec le Fenerbahçe. Le Fenerbahçe qui s'intéresse aussi de près à Robin Van Persie, ah oui, qui pourrait signer aussi là-bas.
Merci beaucoup Benjamin Glaise, 20h35 sur RMC. Vous pouvez nous appeler au 3216. Je rappelle que dans l'after, on parlera du mercato marseillais. Pour l'instant, assez discret, faut-il s'attendre à un début de saison galère? Appelez-nous au 3216. On a déjà Thomas qui est là au 3216. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Martial.
Thomas, supporter du Paris Saint-Germain. On en parlait reprise de l'entraînement demain, hein, du côté de Marcoussi. Tu voulais nous parler des recrues ou de l'absence de recrues parisiennes, hein.
C'est ça. Il y a Trapp, le gardien allemand. Du coup, il faudrait voir un petit peu ce qui va se passer avec Sirigu. puisque je les vois pas
mettre. Vous avez trois gardiens, somme, là, ça devient compliqué.
Voilà, et puis je les vois pas mettre une somme aux alentours de 10 millions d'euros, avec les primes, etc., pour le mettre sur le banc, à moins qu'il fasse comme Barcelone ou le Real, avec un gardien pour le championnat et un gardien pour la Coupe européenne. Mais bon, ça m'étonnerait. Et c'est vrai que pour une fois, le mercato du PSG est très long à démarrer. Mais en même temps, je me demande s'ils attendaient pas la décision concernant le fair play financier.
Oui,
et puis la fin de la Copa América, je pense aussi, pour être sûr de pas recruter un joueur qui finisse la Copa América blessé, notamment je pense à Di Maria
qui est sorti
hier
avant
soir,
la fin hier
exactement.
Soir
ouais. Ouais, ouais, qui est sorti même au bout de 25 minutes. Et du coup, je pense que cette année le PSG a pas fait les mêmes erreurs entre guillemets que l'année dernière, les deux trois saisons précédentes, c'est-à-dire acheter beaucoup de joueurs. À mon avis, ils vont essayer de garder un groupe assez solide avec juste quelques retouches. Et à mon avis, ce qu'il faudra voir, c'est la prolongation de Mota et voir si Lavezzi et Cabaye s'en vont finalement ou pas. Je pense que pour Cabaye, c'est à mon avis, Lavezzi, il y a de grandes possibilités qui restent, je pense. Mais Cabaye, je pense que ce serait mieux pour le club et pour Cabaye l'année de l'Euro qui trouve du temps de jeu. Mais à mon avis, là, avec les nouvelles du fair play financier, je pense que Paris vont s'activer à partir de maintenant. Donc, je ne fais pas trop de soucis.
T'es pas inquiet donc pour le
pas
mercato
du tout. Non. Et puis Paris, il y a quand même un effectif largement supérieur aux autres équipes, et cette année ils vont pouvoir jouer à 25 en Ligue des Champions à l'inverse des deux saisons précédentes, donc non, je suis pas plus inquiet que ça.
Et puis il n'y a plus de contrainte du fair play, donc a priori voilà. En fonction du budget parisien, ils auront une enveloppe de recrutement autour des 120 millions d'euros.
C'est ça. Bah après, il faut rester dans les clous pour pas se refaire prendre par la patrouille l'année prochaine.
Pas être en déficit, exactement.
Voilà, mais je pense que ouais, non, ils ont plus de marge de manœuvre que les années précédentes, et en plus ils ont une équipe qu'ils ont de moins en moins besoin de faire évoluer, donc voilà. Faut penser aussi à remplacer Soumana Camara, même s'ils ont signé en pro deux jeunes qu'ils ont fait monter deux jeunes en pro, c'est pas exactement, mais bon, il faut quand même, je pense que les deux jeunes, il faut pas non plus leur donner le statut de remplaçant en cas de pépin, et ben bon. Je suis pas plus inquiet que ça. Moi, ce qui m'intéresse le plus là, c'est voir si Cabaye va pouvoir partir, s'il va donner aussi des marges de manœuvre niveau salaire, puisqu'il a quand même pas un salaire, il a un salaire quand même conséquent. Hein. Et puis, je pense que si le PSG arrive à le revendre 20 millions, ce sera quand même une bonne affaire, vu ce qu'il a fait au PSG. Puis, surtout, à mon avis, re-signer Mota. Je pense que c'est quelque chose de fondamental dans le jeu d'une part, et puis pour le groupe. Pour le groupe d'une autre part, parce que c'est vrai que Mota a souvent fait le lien entre les joueurs sud-américains, les joueurs européens, et on l'a vu cette année, même contre Chelsea, hein, on l'a vu, il revenait de blessure, il fait 90 minutes exceptionnelles, 120 minutes exceptionnelles, et je pense que c'est entre guillemets, comme on dit, la recrue qui sera importante cette année, c'est de re-signer Mota.
Thomas, toi qui es supporter parisien, il y a une question qui commence à agiter les supporters à Paris, c'est le cas Zlatan Ibrahimovic. Certains se demandent s'il faudrait le garder ou s'en séparer le plus vite possible pour pouvoir faire venir tout de suite un attaquant. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Bah, il faut voir aussi quels attaquants sont disponibles.
Oui.
Quels attaquants en Europe à l'heure actuelle, à part peut-être Agüero, mais Agüero de Manchester City, c'est extrêmement cher.
Il y avait Tevez, mais il est parti en Argentine.
Pas Thomas Müller, il va aller à Manchester City, c'est pour ça que je parlais d'Agüero, parce que peut-être qu'on pourrait peut-être faire venir Agüero ou Edin Dzeko, mais à part ça, je vois pas. Et puis Ibrahimovic, tout le monde lui tombe dessus, mais il a quand même mis, tout le monde dit que Cavani est bouffé par Ibrahimovic, mais Cavani, mine de rien, cette année, il met 31 buts, Ibrahimovic, il met 30 buts. Pour trouver un joueur qui met 30 buts dès cette saison, s'il vient pour remplacer Ibrahimovic, ça va être très dur à trouver. Et ensuite, il faut convaincre Zlatan Ibrahimovic de se séparer d'un contrat qui est à quasiment 1 million d'euros par, enfin qui est à 1 million d'euros par mois. Et je vois pas où est-ce qu'il va trouver ça. Et surtout, Ibrahimovic, je le vois pas. Là, l'Euro 2016, il faut pas oublier que la plupart des équipes du continent, la plupart des grosses équipes ou des moyennes équipes seront qualifiées pour l'Euro 2016. Donc la Suède y sera. Et Zlatan, je le vois pas partir en MLS ou dans un championnat plus faible avant l'Euro 2016. Je pense qu'il voudra être en pleine possession de ses moyens et rester sur un rythme élevé avant l'Euro, qui sera sa dernière compétition continentale avec la Suède.
Merci Thomas. Merci Thomas d'être venu sur RMC, nous avoir appelé au 32-16. À très vite. Merci Benjamin. Et puis je rappelle 32-16 pour l'after à partir de 21h avec le cas marseillais cette fois qui sera passé au crible. Faut-il s'attendre à un début de saison galère pour l'OM qui avait si bien démarré l'année dernière? Mais au vu du mercato, beaucoup de supporters marseillais s'inquiètent. Appelez-nous au 32-16 ou alors sur le hashtag RMC Live. Dans un instant, on revient sur la Copa América, la finale hier, Chili-Argentine. On sera avec Omar Da Fonseca. Et puis on partira du côté de la Grèce avec le sélectionneur des Bleus de moins de 19 ans qui commence leur Euro demain.
RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
20h42 sur RMC, l'after qui démarrera tout à l'heure à 21h. Le foot et la Copa América maintenant. On y revient avec cette victoire hier du Chili en finale à domicile. 0-0 à la fin du temps réglementaire, 0-0 à la fin de la prolongation face à l'Argentine. Les Chiliens finalement vainqueurs au tir au but devant leur public face à Léo Messi et compagnie. Le Chili qui succède à l'Uruguay. Omar Da Fonseca est avec nous. Bonsoir Omar.
Bonsoir à tous.
Omar Da Fonseca, évidemment, spécialiste du football sud-américain. Une finale sans but et des Chiliens, Omar, qui ont réussi à s'imposer. Après, j'allais dire, une séance de tir au but où les Argentins ont été un petit peu maladroits, presque de façon surprenante, hein.
Oui, sur le match, on peut dire que les deux équipes se sont annulées mutuellement parce qu'il n'y a pas eu de supériorité de la part ni d'un de l'autre. Et je crois que par rapport à tout l'ambition que ces deux équipes ont voulu montrer pendant tout le tournoi, ça manquait. Donc 0-0 et voilà, les pénaux, on parle toujours qu'il y a l'effet chance, etc. Je dis qu'il y a le côté émotionnel qui est assez étrange parce qu'il y a un joueur comme Higuaín qui connaît quand même, il a une carte de visite assez remplie, frappé en sorte, il a loupé et bon. Voilà, c'est l'état. Ouais. Je crois que c'est assez mérité dans l'ensemble pour le Chili.
Alors, tu parlais d'Higuaín, Omar, justement. Il a quand même, en fin de temps réglementaire, raté une belle occasion, ce tir au but. Est-ce que ce matin, tu ne penses pas que le peuple argentin lui en veut un petit peu?
Oui, oui, parce qu'en plus, en Argentine, on est assez sévère et critique. Il y a beaucoup, il y en a qui se moquent un peu de lui. Et c'est vrai, la Coupe du Monde ne l'avait pas favorisé. On se souvient qu'en finale, il avait loupé aussi une superbe occasion. Et c'est vrai que bon, il n'y a pas que lui, parce que ce soit TV, Sawero ou Higuaín, alors qu'en Europe, ils remplissent les cages de but partout. En équipe nationale, ils ne peuvent pas consolider ou confirmer cet aspect-là. Mais bon, je pense que c'est surtout lui qui va être mal dans sa peau pendant quelques jours.
Ouais. Tu parlais de cette équipe argentine composée de stars, avec aussi Lionel Messi, bien sûr. Cette génération Messi qui, une nouvelle fois, en équipe nationale, repart avec une défaite, encore en finale. Ça fait que Messi a du mal vraiment à se constituer un palmarès au niveau national. Est-ce qu'ils sont pas en train de passer à côté d'un truc?
Ah oui, c'est frustrant, c'est pas du tout logique, parce que certes, il y a Messi, on dit qu'il faut jouer pour lui, mais en même temps, il y a l'addition de toutes les individualités, n'en fait pas une équipe, et la preuve, parce que ça va faire, je crois, 3 ou 4 Coupes d'Amérique et 3 Coupes du Monde, et on arrive plus ou moins à des bonnes conditions, mais il manque le côté, voilà, personnalité et supériorité par rapport au reste. Et je crois que ça serait vraiment dommage qu'en ayant le ou parmi les meilleurs joueurs du monde, que l'Argentine ne va passer à côté de plein de choses. Mais sur le match, encore une fois, pour analyser bien profondément, je crois que c'était pas encore mérité. Donc il va falloir à un moment donné changer.
On a l'impression qu'il y a un super potentiel et qu'il n'est pas exploité en Argentine.
Voilà, je crois que maintenant il va falloir changer parce qu'on fait, je disais pas l'heure, on fait une addition d'individualité. On dit qu'il y a Di Maria, Tevez, Agüero, Higuaín, Messi, on en a je ne sais pas combien, ils marquent des buts. Et après, on fait 0-0, on arrive à peiner pour marquer, on a des occasions. Donc je crois que maintenant, il va falloir transformer. Je crois que la patte de l'entraîneur va être, dans son sens-là, peut-être des joueurs moins valorisés ou moins valorisants, mais qui puisse jouer pour, encore une fois, privilégier, je crois, le cas Messi, parce que Messi aussi, à par moments, il devient un peu fantomas. alors qu'on connaît le Messi en Europe qui joue un peu quand lui il se détermine à le faire.
Juste un mot sur l'ambiance dans le stade de Santiago du Chili. Tu connais les ambiances sud-américaines, mais ça avait l'air particulièrement sympa hier soir. Hein.
Tout a été, encore une fois, je le disais, ils nous ont bien accueillis. Il y avait plein de pelés de partout. Je crois que l'organisation en soi a mérité le bout et le titre. Et si bien il y a eu à l'intérieur du stade, même ils ont mis des grands écrans dans les grandes villes. Je crois que le Chili l'ont véritablement vécu. On peut parler aussi.
Et ils ont gagné à la fin en plus.
Voilà, donc tout a été bien fini.
Merci beaucoup Omar Da Fonseca d'être passé sur RMC.
Allez, à très bientôt, merci à vous.
20h46 sur RMC. Geoffrey nous a appelé au 32-16 justement pour parler de cette finale de Copa América. Bonsoir Geoffrey.
Bonsoir.
Alors, tu l'as regardé à la télé, t'as pensé quoi de ce match?
Ben alors franchement, pour être tout à fait franc, je me suis un peu ennuyé.
Endormi presque.
Presque endormi, mais pas à ce point-là. Non, franchement, j'ai vu des Argentins un peu tétanisés par l'enjeu, quoi. Et puis, certains joueurs qui ont fait de grosses saisons, qui étaient un peu cramés, comme Messi, comme d'autres joueurs qui avait l'air de plus rien dans les chaussettes, quoi.
C'est vrai que ça fait des saisons très très longues parce qu'ils enchaînent en fait. Hein. Ils ont fait la Coupe du Monde l'année dernière, là ils refont la Copa América deux saisons de suite. Contrairement aux Européens, à chaque fois c'est séparé par une saison sans rien. Les Sud-Américains doivent enchaîner à chaque fois. C'est vrai. Et je dis ça, mais les Chiliens avaient l'air quand même un peu sublimés, même physiquement, peut-être grâce au public, non?
Ah ben vous avez vu l'ambiance, moi je trouve ça exceptionnel, les ambiances sud-américaines, c'est tout le temps de la pression sur l'adversaire de la première à la dernière minute, même pendant les tirs au but, je me suis dit, mais quand je vois Higuain, la balle qui met au-dessus, je me dis, mais il doit avoir les jambes qui tremblaient pour rater ça, pour la mettre autant au-dessus, quoi.
Il faut être fort, oui. Non mais c'est vrai que physiquement on se demande comment un ballon peut passer autant au-dessus de la barre transversale. Quand
Oui, c'est... Je pense surtout qu'il a eu la pression, je pense. Hein.
Et puis, peut-être qu'il a raté une belle occasion aussi en fin de temps réglementaire. On en parlait avec Omar Da Fonseca à l'instant. Là, c'est vrai que ça a dû cogiter. Peut-être que ce matin, il devait se dire en Argentine que Higuain n'était peut-être pas le... Bon, il est entré en jeu, on l'attendait comme le Messi et il n'a pas rempli son rôle.
Je pense que ce matin, ils ont regretté qu'ils ne se soient pas fait naturaliser français, je pense.
Et apparemment, Higuain, en plus, avec Naples, il en a tiré beaucoup, des pénaltys, et il en a raté aussi pas mal. Hein.
En Ligue Europa, il en a raté beaucoup, il me semble, si je me rappelle bien.
Tout à fait. Il les tirera peut-être plus la prochaine fois, je sais pas.
Je pense qu'il y réfléchira deux fois.
Ouais, il a pris ses responsabilités. Merci beaucoup, Geoffrey, de nous avoir appelé au 32-16. À très vite, 32-16 ouvert.
Merci,
aussi.
Au revoir,
Geoffrey. 32-16 ouvert dans l'after, aussi à partir de 21h avec la Copa América, on en reparlera. Et puis l'OM, donc appelez-nous. Vous avez aussi l'hashtag RMC Live. L'OM et son mercato pour l'instant très faible. 20h49 sur RMC. On va partir du côté de la Grèce maintenant, parce que demain il y a un Euro qui commence pour une équipe de France de foot, l'équipe de France des moins de 19 ans. Et on est avec son sélectionneur, Patrick Gonfalon. Bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Alors ça commence en Grèce, déjà on va, il n'y a pas que l'aspect sportif en ce moment, la priorité en Grèce, contexte particulier au niveau politique, est-ce que vous êtes arrivé il y a quelques jours, vous avez ressenti déjà quelque chose de particulier à ce niveau-là?
Bon, franchement non, parce que on est un petit peu en dehors de la ville, en dehors du contexte de la population, donc le fait qu'on soit sur un hôtel isolé, bon, nous préserve un petit peu des soucis de nos amis grecs.
D'accord. Alors, l'aspect sportif de cet Euro des moins de 19 ans, il y a deux groupes de quatre avec votre équipe dans la poule de la Grèce, justement, de l'Ukraine et de l'Autriche, contre qui vous jouerez demain pour le premier match. Contexte particulier aussi, Patrick, quand on joue en Grèce à cette période de l'année, ça c'est la chaleur. Vous avez préparé l'équipe de façon particulière pour ça?
Oui, complètement. On est allé se préparer dans le sud de la France, à Toulouse, pour être plus précis. Et on a essayé de s'habituer un petit peu aux joutes footballistiques dans le contexte de la chaleur. Et je dois dire qu'on a été servi, puisque depuis quelques temps en France, on a quand même une sacrée canicule. Donc la préparation a été extrêmement difficile.
mais j'espère qu'elle sera ici et qu'elle va porter ses fruits.
Alors dans votre sélection, il y a des garçons qu'on a vus en Ligue 1. Déjà, je pense à Neil Mopé, le Niçois, à Maxwell Cornet, à l'Olympique Lyonnais. On a aussi Kingsley Coman, l'ancien Parisien qui jouait à la Juventus Turin. Quand on a comme ça des garçons d'une telle qualité dans son effectif, on arrive sur cet Euro avec quelle ambition, Patrick ?
Écoutez, je connais ces garçons depuis l'âge des 16 ans. Je les ai vus grandir et je dirais avoir un parcours assez mature, puisqu'ils ont un petit temps d'avance sur les autres. Alors l'ambition, ben, elle est tout à fait légitime, parce que on considère quand on a un petit temps d'avance avec ces joueurs, on peut avoir des arguments qui nous permettent de faire quelque chose d'assez efficace. Mais je me dis aussi que dans toutes les nations, il y a des joueurs qui jouent au niveau en Ligue 1, en Serie A, en Liga. Donc voilà, toutes les équipes à ce niveau se valent, et des joueurs qui jouent déjà au niveau. Donc voilà, c'est assez équilibré. Chacun devra faire valoir ses arguments au bon moment et faire en sorte que ces garçons apportent un plus à l'équipe.
Alors, en moins de 19 ans, quand même, l'équipe de France a souvent brillé dans ces championnats d'Europe. Champion d'Europe en 2005, ça c'était la génération Cabaye-Gourcuff. Champion d'Europe en 2010, plus récemment, avec les Griezmann et la Cazette. Ça veut dire que ça met un peu de pression quand même, ça, non ?
Tout ça, ce qui est important pour nous, c'est d'être dans le carré final. Parce que d'être régulièrement dans le carré final, ça veut dire que la formation de nos jeunes, le travail qui est fait dans les centres de formation, le travail qui est fait par nos clubs, les structures de formation qu'on met en place sont efficaces et qu'on produit des bons joueurs. Avoir un titre tous les 5-10 ans et puis ne rien avoir entre les deux, je trouve pas que ce soit une situation très stable pour le niveau de notre football. Par contre, être régulièrement dans le carré, ça c'est un signe de bonne santé de notre football.
Mais ça, c'est
et
ce
en
que...
plus, bah, de temps en temps, on a un petit titre, c'est vrai que c'est pas désagréable.
Ouais, parce que ce que vous nous dites là, c'est pour le foot en général, mais les garçons que vous avez sélectionnés, le titre, c'est cette année, uniquement cette année. Donc, qu'est-ce qu'ils répondent quand vous leur dites ça? Vous leur en parlez pas comme ça, j'imagine.
Je dois un petit peu quand même, parce que pour eux, ce qui est important, c'est l'enrichissement à travers ces compétitions. Mais de par leur formation et de par leur parcours dans leur club, ce sont des compétiteurs. Et être dans le carré, ça veut dire être déjà en position pour jouer un titre. Donc, pour être bon dans cette préparation, il faut pas programmer un titre. Il se prépare, ce titre. Et préparer un titre, c'est mettre justement tout dans la balance pour pouvoir l'obtenir. Et c'est pas dire on va jouer le titre. C'est dire qu'est-ce qu'on va mettre dedans, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir avoir ce titre. Il y a une différence quand même. Donc, encore une fois, ça se prépare. Ça se prépare, mais ça se programme pas. Et ça se mérite quelque part. Donc, le titre, il viendra que si justement, dans la préparation, dans la philosophie, on est bien en phase avec ça.
Et c'est Coman, là, c'est Mopé, c'est Cornet, c'est Marcus Thuram. Cette génération-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport aux précédentes que vous connaissez aussi très bien ?
Écoutez, elle a, comme les précédentes, des joueurs de talent. Elle a de la technicité, elle a de la puissance, elle a les caractéristiques du football français en général, c'est-à-dire qu'on est capable d'allier de la finesse technique, de la puissance athlétique, un bagage tactique de bon registre, et puis on doit rajouter aujourd'hui, parce que c'était un petit peu peut-être qui nous faisait défaut par le passé, un mental de tous les instants. Et voilà, ça revient à ce que vous disiez par rapport au titre. Oui, le titre, bien sûr, qu'on est ambitieux. Mais on pourra l'avoir que si dans l'humilité, la solidarité, l'engagement, l'optimisation de la performance, on est au top de tout ça, quoi.
Et les moins de 17 vous ont montré l'exemple il y a quelques semaines.
Exactement, tout à fait. C'est exactement ça.
ça va chambrer entre générations, hein, s'ils vont pas aussi loin, donc attention.
Oui, et c'est bien, je vous dis encore une fois, c'était un très bon challenge pour nous.
C'est des 96, hein, la plupart de ceux que vous avez pris année, hein, c'est ça ? Ça nous donne une idée un petit peu. Donc c'est la génération 96. Et ben on espère qu'elle va marquer le foot comme d'autres l'ont fait précédemment. Merci beaucoup, Patrick Gonfalon. Premier match donc demain contre l'Autriche. Après, si je dis pas de bêtises, dans l'ordre, ce sera l'Ukraine et puis le pays organisateur dimanche prochain, la Grèce. Eh ben très bien. Ben bonne chance à vous, Patrick Gonfalon, et bonne entrée dans la compétition. À demain. Poule de 4. Bonsoir, il faut sortir dans les deux premiers pour se qualifier dans les pour les demi-finales. Merci beaucoup, Patrick. 20h56 sur RMC. L'intégral tour qui va bientôt s'achever et on va partir du côté de l'after. On en parlait tout à l'heure hein, quand on parlait de la Copa América. Guillaume Laniel est avec moi. Il est revenu. Rebonsoir.
Rebonsoir.
Donc Copa América, mais pas que.
Évidemment, on va parler du football français avec notamment Marseille. Est-ce que vous sentez la catastrophe poindre ? On va parler du recrutement judicieux pour certains de l'AS Monaco. Journal du Mercato, évidemment, la Copa América, t'en parlais. L'avenir, un quid d'Hugo Lloris, le gardien de l'équipe de France. Et puis un petit mot également sur la Coupe du Monde féminine. C'est ce soir la finale entre le Japon et les États-Unis. Voilà pour le programme ce soir de l'After entre 21h et 23h.
Et le 32-16 ouvert aussi, et le hashtag RMC Live, évidemment, pour s'il y a des auditeurs, les supporters marseillais. On a eu des Parisiens, on a eu des spécialistes de la Copa América. On ouvre la porte aux Marseillais, puis aux autres. Hein.
Évidemment, le 32-16 est ouvert et tous vos messages attendus sur le hashtag RMC Live. On se retrouve donc dans quelques instants pour l'after, 21h, 23h.